Facebook ne répond pas.
Attendre.
Poubelle, c'est dehors. J'en ai fait assez aujourd'hui des poubelles. Les poubelles, c'est dehors.
Oui, je voulais juste te montrer ça.
Je vois pas. Mes lunettes sont pas bien.
C'est un frelon.
Hein? Je vais dire bonjour de ma part.
Je le mets
où dans le feu? Tu le mets dans les poubelles, c'est tout.
Tu vas piquer avec.
Me piquer? Pas du tout. Bon. Ah, bonjour Jean-Christophe. Quelqu'un m'a distrait avec un frelon crevé. Assez étonnant, n'est-ce pas? Donc, nous sommes toujours dans la réflexion sur la grâce et la colère de Dieu. Donc, il est évident que j'ai déjà dit certaines choses, mais parfois il faut que je me répète. Que soyez bénis. Pour commencer, soyez bénis et que le Seigneur nous bénisse tous ensemble. J'ai vu aujourd'hui que Saïd, le pasteur, me disait que depuis 4 jours, il n'avait plus rien à manger pour les 135 enfants. Évidemment, c'est pas facile. Parce qu'il y a énormément de besoin d'argent. Il y a une inflation horrible là-bas au Pakistan. Et donc, ça devient difficile de les aider. Par la grâce de Dieu, en tout cas, remettez ça dans la prière. Pour ces braves enfants et leurs parents. Ton nom, Seigneur Jésus, est admirable, ton nom surpasse tout autre nom. Je dirai bonjour à Yoyin en Espagne. Sois bénie, ma sœur, ainsi que ton mari. Yeah. Vous avez peut-être Google Translate, ok? Et good vertaling. France, tot Netherlands, yeah. Ok. Bonjour Jean-Christophe, bonjour à d'autres. Alors, regardons bien dans la parole de Dieu ensemble. Jésus est annoncé dans Ésaïe, à beaucoup de places, au moins 30 places dans Ésaïe, et dans tout l'Ancien Testament, à beaucoup de places. Et voici ce qu'il a dit au chapitre 42. Voici mon serviteur, en hébreu c'est Ebed Yahvé, le serviteur de l'Éternel, que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, il ne fera point entendre dans les rues. Donc, un homme modeste. Dieu se fait modeste à Nazareth et à Bethléem. Il ne fera point entendre sa voix dans les rues, il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Donc, il ne sera pas en train de juger les hommes, il ne les massacrera pas à coups de règlements, de préceptes, mais il va relever les pécheurs dans leur culpabilité, il va relever les pécheurs dans leur misère, dans leur mauvaise tendance, dans leur égarement. Il va parler aux aveugles, que nous sommes tous, tant que nous ne le connaissons pas parfaitement. Il va parler aux sourds, tous ceux qui ne connaissent pas Dieu. Je circulais dans la rue et je me dis, mais comment que c'est possible, toutes ces personnes aveugles, sourdes, qui n'ont jamais, qui ne savent pas qui est Dieu, et dont quand on leur en parle, ils comprennent rien. Ils veulent même parfois pas. Alors, je dis, Seigneur, mais il n'y a que toi qui peux faire ce miracle. d'ouvrir les oreilles, d'ouvrir les yeux, d'ouvrir le cœur. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et évidemment, on est bien tout petit devant ce grand problème de l'humanité qui est égaré, qui est perdu. Alors, le serviteur souffrant, Ésaïe 42, verset 3, ne brisera point le roseau cassé et n'éteindra point la mèche qui brûle encore, il annoncera la justice selon la vérité. La justice de Dieu, c'est le pardon de Dieu, de manière gratuite. C'est ce qui a été promis, chapitre 17 et 18 de Genèse, à Abraham. Dieu imputa sa justice à Abraham à cause de sa foi. Il avait confessé son péché, il avait reconnu la grandeur de Dieu, la puissance de le ressusciter, la puissance de pardonner. Et donc, Abraham est le père de la foi à cause de cela, parce qu'il croit dans la justice divine, gracieuse, une grâce accordée pour le pardon des péchés. C'est ce qu'Abel croyait en offrant l'agneau, son sacrifice, alors que Caïn n'y croyait pas et offrait des œuvres, des mérites. Ésaïe 42, verset 4, « Il ne se découragera point, il ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. » Moi, ce verset 4 me donne beaucoup de courage. Parce que je me dis, on a beau faire tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut, tout son possible, et souvent on le fait encore mal, en plus, on n'arrive pas à amener beaucoup de personnes au Seigneur. Et il y a beaucoup de gens qui s'en fichent. Et quand on les rencontre, on se sent complètement comme une puce à côté d'un éléphant, quand on rencontre la foule. Et pourtant, Dieu a dit que son serviteur, Jésus-Christ, ne se découragera pas, ne se relâchera pas jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Donc le pardon des péchés par la croix et la sanctification des humains et un salut accordé par grâce, qui n'est pas dû au mérite de l'homme. Que les îles espèrent en sa loi, donc que tous les pays, toutes les nations espèrent en sa parole. Ainsi parle Dieu l'Éternel qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Donc, ici, nous avons un décret. Il est affirmé par Dieu le Père, à travers la plume, la révélation du Saint-Esprit faite à Ésaïe, en 780-760 avant Jésus-Christ. Il est affirmé que Dieu traitera une alliance avec les peuples et qu'il exposera sa lumière aux nations, c'est-à-dire Christ. Christ. Alors, aux nations, et alors c'est bien précisé, au verset 7, « Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs, de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, je ne donnerai pas ma gloire à un autre ni mon honneur aux idoles. » Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs, de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je me rendais tout à l'heure dans 2-3 magasins, et puis tout d'un coup, je regarde partout. J'ai toujours été comme ça, et je m'instruis de ce que je vois. Je m'instruis de ce que j'aperçois. Et je le médite, et je réfléchis tout le temps. Et je ne suis jamais fatigué de réfléchir. Et mon regard se pose sur une jeune fille de l'autre côté de la route, short bien taillé, etc., tout le reste. Eh bien, elle riait en me regardant. Mais elle riait comment? Elle riait de ce qu'elle était intéressante pour les hommes. Elle se savait intéressante et elle savait qu'elle tapait dans l'œil aux hommes. Et je me suis dit, mais elle me regarde comme si j'étais un gars de 20 ans, 25 ans. Mais elle est de... Alors je me suis rendu compte que la folie est loin. La folie est très, très affirmée. Qu'une jeune fille puisse regarder un vieux pépère comme moi de 74 ans et vouloir l'allumer. Et donc, je me suis dit, Mais quelle gangrène il y a dans son cœur, quelle gangrène il y a dans cette jeune fille, qu'est-ce qu'elle va faire comme dégâts chez tous les humains, tous les hommes? Elle va faire des dégâts considérables. Et voyez-vous, il y a des jeunes gens comme ça aussi. Quand ils regardent les femmes, ils posent leur regard et les femmes s'allument. Il y a des gens qui ont une espèce de d'aura, d'influence magnétique, psychologique, et ils induisent les gens dans le péché. Ils induisent les gens dans leur faiblesse. Ils les tentent. Un coup d'œil, une certaine façon de marcher, une certaine façon de s'habiller, et clac, on a tapé dans l'œil, comme on dit, on a déjà fait un flash sur quelqu'un. Et je veux dire que le mal règne énormément. Cette façon de séduire les gens et les entraîner dans le plus faible, dans les actes faibles du sexe, dans les égarements et dans les souffrances qui en suivent après, parce qu'il y a beaucoup d'afflictions après, c'est un mal qui règne tout le temps. C'est un mal qui est fort répandu et à chaque génération se répète. Il y a toujours des jeunes gens, des jeunes filles qui recommencent ce cirque de tenter les autres, de les provoquer et d'avoir un certain don pour ça, et d'autres, ils ont le don de se laisser avoir, le don de se faire allumer, comme je dis, c'est-à-dire plus que séduire, lier. Et je vais vous dire ici pour Jésus, ce qui m'attache fort à la parole de Dieu dans Isaïe 42, c'est que Jésus ouvre les yeux des aveugles et fait sortir de prison les captifs, de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, je ne donnerai pas ma gloire à un autre ni mon honneur aux idoles. Voici les premières choses se sont accomplies, je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges aux extrémités de la terre. Donc, ce qu'il y a, quand on a vraiment l'amour de Christ en soi, quand on a vraiment un attachement à la personne de Christ, on n'a qu'une arme redoutable qui fait reculer le péché, c'est la prière, l'adoration, l'intercession, l'action de grâce, les chants, les hymnes. C'est plus puissant que vous ne pensez. Chers amis, coulez-vous, mettez-vous dans la prière, l'action de grâce, les chants, l'adoration. C'est l'arme, la seule, que Dieu nous a donnée. Et quand on a l'occasion d'ouvrir sa bouche, sortez un verset biblique, après avoir bien réfléchi, pesez le pour et le contre, sortez une parole de Jésus. Vos paroles ne font pas reculer le péché, ni Satan, mais une parole de Jésus peut faire un clash et arrêter quelqu'un dans sa course folle ou le sortir de sa prison. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges aux extrémités de la terre, vous qui voguez sur la mer et vous qui la peuplez, et les habitants des îles, donc de tous les pays du monde, qu'on rende gloire à l'Éternel et que dans les îles on publie ses louanges. Le psaume 42 est génial. Le chapitre 42 de Ésaïe est génial. Lisez-le, relisez-le, mes amis. Prenons Sophonie. Sophonie, c'est à la fin de la Bible, hein. C'est vers la fin de la Bible, en tout cas. Avant de l'Ancien Testament. Sophonie, chapitre 3, versets 9 à 20. Je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel, pour le servir d'un commun accord. Je donnerai, c'est-à-dire que les peuples n'ont pas de lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. Eh oui, vous voyez bien la pagaille des religions sur la terre, entre chrétiens, mais entre musulmans aussi, il y a des tensions terribles, et dans toutes les religions. C'est la pagaille avec la religion. Et le servir Dieu d'un commun accord. Je ne parle pas du œcuménisme. Ça, c'est une œuvre des institutions religieuses. Et à qui cherchera à être le plus fort pour entraîner les autres et les séduire? Non, merci. Mais ici, c'est là l'œuvre du Seigneur, servir d'un commun accord notre Seigneur Dieu. Alors, au chapitre 1, verset 2, Sophonie, « Je détruirai tout sur la face de la terre, dit l'Éternel. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. » Ah, ça, ça fait peur. Là, on ne parle pas de salut, on parle de colère. Et je vous ai dit qu'il y a à la fois le salut, la grâce, la rédemption et la colère de Dieu. « Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. » C'est une parole extrêmement forte, très puissante. Au verset 2, « Je détruirai tout sur la face de la terre, dit l'Éternel. » Il est clair, chers amis, que tout ce qui n'appartient pas à Dieu, tout ce qui n'a pas donné son cœur à Jésus, tout ce qui n'a pas reconnu son péché, sa nature pécheresse, et qui ne s'est pas humilié devant le Seigneur en disant « Oui, Jésus, mon Dieu, Jésus est mort sur la croix pour moi, je l'accepte comme Seigneur et Sauveur, comme Rédempteur », eh bien, tous les autres seront exterminés durant les tribulations par Satan, l'Antichrist, et plus tard, lorsque c'est le jugement final du monde, à la fin du règne de 1000 ans de Jésus-Christ. Le jugement final. Et vous voyez toutes les grandes cathédrales catholiques, même des peintures de grands peintres du Moyen-Âge, où ils montrent un jugement final. Un jugement où vous voyez les justes auprès de Dieu, et puis vous voyez tous les autres qui sont en train de souffrir, de rôtir avec Satan. Mais tout compte fait, les gens avaient déjà compris depuis longtemps qu'il y avait la gloire, la grâce du salut et la colère de Dieu. Et oui, c'est peut-être aujourd'hui, dans notre petite suffisance bourgeoise et moderne, qu'on n'a pas envie ni de la grâce ni de la colère de Dieu. Mais on n'y fera rien, on devra bien y passer. Il y a un revirement spirituel puissant sur la terre qui est annoncé par Dieu et qui est un cadeau, même si un châtiment très fort, très puissant sur la terre, sur ceux qui n'ont pas accepté Dieu ni Christ, il y a un cadeau formidable dans Sophonie au chapitre 3, verset 9. Je donnerai au peuple, au pluriel, au peuple, tous les peuples, des lèvres pures afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. Je vous l'ai lu tout à l'heure, n'oubliez jamais. Maintenant, nous allons prendre le psaume 103. Je fais un peu un rappel, mais je vais embrayer assez vite. Je vais continuer la lecture de beaucoup de textes de la Bible. Je ferai des conférences publiques, évidemment, bientôt, je l'ai programmé, parce que je trouve que les personnes ont le droit au salut, ont le droit, Dieu le demande, qu'on fasse connaître son plan salut, sa parole. Je ferai des conférences publiques, déjà à Haït, mais je vais essayer de le faire aussi à d'autres endroits. Bien sûr, il faut louer les salles, il faut mettre des annonces dans les journaux, tout ça, ça coûte de l'argent. En plus, de l'école au Pakistan et tout le reste. Mais j'ai la foi, je remercie le Seigneur que je peux avancer par la foi et faire ce qu'il me demande. Je ne peux pas m'endormir sur mon lit en disant « Ben, il y en a quelques-uns de sauvés, je suis content, j'ai fait mon boulot, maintenant que les autres, paf, qu'ils se débrouillent. » Non. Jusqu'au dernier jour. Et vous aussi, chers amis, jusqu'au dernier jour. Non. Toute personne que vous rencontrez, toute rencontre est une responsabilité devant Dieu. Psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Tout ce qui est en moi, c'est quoi? Mes sentiments, mon âme, mon cœur, mon esprit. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Donc, il y a quelque chose qui se passe. C'est que Dieu est capable de guérir le mal qui est en moi, de le changer. Dis, si c'est Ava, pour les papiers, ils sont dans sa boîte aux lettres. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, donc de l'enfer, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Une couronne de bonté et de miséricorde sur la tête. Dieu, par amour, donne une couronne de bonté et de miséricorde. J'ai remarqué depuis déjà un an ou deux, et mes filles, ma femme trouvent ça drôle, j'ai remarqué que souvent, maintenant, quand je rencontre quelqu'un, quand j'ai fini la conversation, je prends sa tête et je l'embrasse sur le front. C'est plus fort que moi. Il y en a qui vont dire « il devient gaga » ou « il manque de prudence, de sagesse ». C'est plus fort que moi. Parce que j'ai vraiment envie que tout le monde soit couronné de bonté et de miséricorde. Et j'ai ça en moi, c'est comme un fleuve d'eau vive, c'est quelque chose en moi. Mais c'est pour exprimer ce que Dieu veut de bien à la personne. C'est pour exprimer ce que Dieu a comme amour immense pour la personne et qu'elle ne connaît pas encore. Prendre quelqu'un, prendre dans ses mains et embrasser son front, sur ses cheveux, hein, sans aucun vice, sans aucune idée saugrenue, uniquement parce que l'amour de Dieu, c'est le cadeau le plus immense que la personne doit comprendre. Et c'est comme une force en moi, je m'excuse, c'est venu depuis un an ou deux, c'est une force en moi qui me pose, une force qui vient de Dieu. Ça peut paraître tout à fait anormal aux yeux d'un tas de gens. Oui, tout ce qui vient de Dieu paraît anormal de toute façon. Psaume 103. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Ah ah. De quel bien s'agit-il, chers amis? Aïe, ouïe, j'ai mal partout, j'arrive plus à marcher, j'ai du mal de respirer, oulala, quand je mange telle chose, je deviens malade, etc. Je n'arrive plus à soulever telle chose, je perds mon souffle dès que j'ai une émotion, une angoisse, etc. Bon, alors, où sont les biens que Dieu me donne dans ma vieillesse? Eh bien, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Chers amis, Dieu peut faire quelque chose en nous de nouveau qu'on n'avait pas à 15 ans, à 20 ans, à 45 ans, à 60 ans. C'est la proximité avec Jésus. C'est une communion joyeuse avec Dieu. C'est une vie spirituelle intense. C'est quelque chose d'inestimable, un trésor que la personne peut-être pendant toute sa vie n'avait approché que quelques fois, avait aperçu. Mais à un moment donné, ben, elle peut plus courir, elle peut plus se confier dans ses forces, dans son boulot, dans son excitation, dans son affairisme. Et puis à un moment donné, ça y est, ben, il faut se calmer. Qu'est-ce que je peux alors faire? Eh bien, recevoir de Dieu son amour, sa miséricorde. Souvent dans notre vie, nous fuyons l'amour de Dieu. Nous fuyons l'amour de Dieu parce que nous n'y croyons pas. C'est quand même dingue, de notre part, c'est dingue. C'est pas normal. Alors, qui te fait rajeunir comme l'aigle? Vous savez très bien que les aigles, ils volent à 300 km/h quand ils sont en piqué et que leurs plumes s'abîment, ils attrapent leur proie, hein, et leur bec s'abîme, les griffes, les serres qu'ils ont au bout des doigts, les griffes très puissantes s'abîment, ils se posent sur les rochers, tout ça, ça abîme. Vers 35-37 ans, les aigles sont de vieux schnocks, des vieux machins qui ne savent presque plus bien voler, et qui n'ont plus tellement de force. En tout cas, ils n'ont plus la capacité de voler et de bien se diriger, parce que leurs plumes sont très abîmées. Et plus la capacité, parfois, de dévorer la dépouille, un animal crevé, un animal qui est un petit animal, un renard ou un lapin, parce que leur bec est très abîmé. Alors, la plupart des aigles finissent mal. Ils se laissent aller et un certain nombre, 15% à peu près, eux font autrement. Ils montent plus haut dans la montagne, 1000 mètres plus haut, 2000 mètres plus haut, ils vont sur un rocher, ils restent tout seuls, et puis avec leur bec, ils se coupent les serres, les griffes, ils arrachent leurs plumes, donc ils sont tout nus, et ils cassent le bec sur le rocher. C'est du suicide, vous allez me dire. Il fait froid, et puis ils vont plus pouvoir manger. Eh bien non, chers amis. Pour ces aigles qui font ça, ils résistent, ils sont là. C'est des animaux très costauds. Et puis Dieu a permis ça. C'est un miracle de Dieu. Les serres, au bout des doigts, les pinces repoussent, les plumes repoussent, le bec repousse, et tout est neuf. Et ces animaux revivent 15-20 ans, alors que leurs copains qui ne sont pas montés en haut, qui n'ont pas voulu tout perdre, eh bien, ils n'ont plus rien. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est un verset de Jésus, « Celui qui me donne sa vie la sauvera, celui qui veut la conserver pour lui-même la perdra. » Pensez à l'aigle qui ne veut rien perdre et qui reste là, et puis qui finit par ne rien recevoir. Alors, au psaume 103, verset 5, « Celui qui te rassasie, rassasie de bien ta vieillesse, sachez bien, l'âge, la vieillesse arrive chez certains à 55 ans. Hein, dans certains pays, j'ai vu ça au Bénin, à 38, 39 ans, 40 ans, ça y est, les gens sont usés, ils n'ont pas eu de médicaments, ils n'ont rien, ils sont épuisés. Hein? Et il y a beaucoup de veuves, de veufs, il y a beaucoup aussi d'orphelins abandonnés dans les pays d'Afrique. Mais ce qu'il y a, il y a aussi dans d'autres pays des gens qui sont usés, vraiment usés. Je connais même un pays, je ne vais pas le citer, où c'est la tradition que le vieux, à un moment donné, s'empoisonne lui-même. On lui offre le bol, il s'empoisonne pour mourir, parce qu'il est une charge trop... Enfin, il considère, dans leur culture, ils considèrent que c'est une charge trop lourde pour les tribus, pour les habitants, pour leur famille. Mais nous pouvons accepter de tout perdre pour tout retrouver. Nous pouvons accepter de tout donner à Jésus pour trouver mieux. Mieux pour l'éternité. Mieux déjà sur terre, en vivant de ses forces, de sa joie, de sa parole, de son Saint-Esprit. Psaume 103, verset 6. L'Éternel fait justice. Donc, il pardonne les péchés. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Oui, Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Quand je vous ai parlé de la colère de Dieu, elle l'éclatera. Les hommes vont le pousser à bout. Elle l'éclatera, c'est prévu. Il y a plein de textes. Et on n'est pas trop loin de ça. Mais il y a quand même quelque chose. C'est que Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Et bien dans la deuxième épître de Pierre, l'apôtre Pierre dit que si Dieu ne fait pas éclater sa colère maintenant, c'est parce qu'il prend patience afin que beaucoup d'hommes soient encore sauvés aujourd'hui. Oui, il prend patience. C'est le temps de la patience aujourd'hui, de Dieu. Parce que nous manquons souvent de patience. Hein? Si on était à la place de Dieu, il y a longtemps qu'on en aurait décousu et qu'on aurait terminé avec tout ce qui se passe sur la terre. Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Je vous donne un exemple que j'ai souvent cité. La Terre tourne autour du Soleil. Ça fait une année. Elle prend une année pour ça. Mais elle tourne sur elle-même. Et ça, c'est le jour et la nuit. La rotation de 24 heures. Et elle tourne à 473 mètres secondes. 473 mètres secondes. Ça fait du 18 400 km/h. Alors, sachant que la planète Terre est couverte d'eau sur une moyenne de 3 600 km d'épaisseur, sur 76, 76% d'une surface terrestre, si Dieu arrêtait 2 secondes cette Terre, les océans continueraient à tourner et balayeraient Paris, Londres, New York, c'est fini, il n'y a plus personne. Et l'eau continuerait à tourner, à tourner, à tourner pendant un siècle ou deux, le temps de s'arrêter. Prenez l'exemple, vous courez avec un bassin d'eau, vous calez, vous stoppez, l'eau sort du bassin, elle tombe à terre. Donc l'eau, elle suit votre corps, elle suit le bassin, mais si vous vous arrêtez, l'eau, elle veut continuer. C'est l'inertie de l'eau. Eh bien, l'inertie des océans ferait en sorte que ces milliards de mètres cubes d'eau écraserait et balayerait tout. On en aurait fini. Il suffirait que Dieu ralentisse la vitesse de rotation de la Terre de quelques mètres secondes et ça y est. Ou l'arrête complètement. Et la redémarre. Ou la fasse tourner dans le sens inverse. Donc là, vous avez vraiment l'expression de la fidélité et de la patience de Dieu à notre égard. Il est lent à la colère et riche en bonté. Quand nous nous levons, chaque fois qu'une seconde est passée, nous avons fait 473 mètres secondes, 473 mètres secondes. Sur une terre, et tout est debout, tout tient debout, imaginez que tout d'un coup, pour une raison ou l'autre, ça s'arrête. Comme un moteur qui fait des ratés, ou une horloge qui a des ennuis, et puis c'est, on a fini, on ne discute même plus. C'est terminé pour nous. Donc, on peut dire que les fondements de la terre, de l'existence, c'est la bonté et la fidélité du Seigneur. Mais sa colère, un jour, arrivera. On ne pourra pas se moquer tout le temps. Il faut donc se décider pendant qu'on a encore le temps. Quand je parle de l'océan, dans Matthieu ou dans Luc, je pourrais vous le dire, vous voyez les océans qui sont comme ça, si puissants et qui sont stables finalement, qui ne font pas de. Il y a bien des vagues, il y a peut-être bien de temps en temps des parois rocheuses qui s'écroulent, mais ce n'est pas comme ça. Mais le jour que Dieu va faire éclater sa colère, regardez ce qui est mis. Luc 21, verset 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Donc, des chutes de météorites, des chutes de planètes. Et en même temps, le bruit de la mer, le flot, les amis. Est-il possible que nous prenions Dieu à la rigolade, toujours, et que nous, bon, c'est tout quoi, baptême, mariage, enterrement, je suis en ordre. Mes amis, il faut pas se moquer de Dieu. Si je ne donne pas mon cœur et ma vie, mon âme, tout mon être au Seigneur tous les jours, ben, je me moque littéralement de lui, je le prends pour un nigaud. Et ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ce n'est pas dans son plan que ça marche. Aujourd'hui, il est patient. Pourquoi est-il patient? Parce qu'il nous aime, parce qu'il veut sauver des personnes. Et, chers amis, ce n'est pas pour cela qu'il faut faire n'importe quoi aujourd'hui. Je lis aussi dans Matthieu 23, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'amour du péché se sera accru, l'amour du plus grand nombre se refroidira. On va tous se haïr, se détester. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, donc qui croira en Jésus et qui vivra dans l'Évangile, dans sa volonté, sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors viendra la fin, chers amis. Chapitre 24, verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Donc Jésus va apparaître sur les nuées. Le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, sauf ceux qui ont cru en lui, qui ont vécu dans l'amour avec lui. Il n'y a pas de quoi se lamenter. Elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents d'une extrémité des cieux à l'autre. Lisez, méditez la parole de Dieu. Tous les jours. Et je dis que si les choses n'étaient pas urgentes, je ne ferais pas 3 messages par semaine depuis 2 ans et demi. Si les choses n'étaient pas urgentes, je ne ferais pas de message. Je choisirais de vivre dans mes pantoufles. Alors, nous allons aller un peu plus loin dans Ézéchiel 39. Donc ce que je vous ai lu, Matthieu, c'est dans l'an 45, le psaume 103, c'est l'an 1000 avant Jésus, maintenant Ézéchiel, c'est 610, 620 avant Jésus. Ézéchiel 39. Et toi, prophète, Ézéchiel prophétise contre Gog. Gog, la Turquie. Tu parleras ainsi, le Seigneur éternel, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, Méchec et Tubal, ce sont des régions de Turquie. Je t'entraînerai, je te conduirai comme on conduit un cheval par le mort et la reine. Je te ferai monter des extrémités du septentrion, donc tu descendras du nord, tu passeras à travers l'Irak et la Syrie pour attaquer Israël. Je t'amènerai sur les montagnes d'Israël. J'abattrai ton arc de ta main gauche. Je ferai tomber tes flèches de ta main droite. Donc, les armes vont être ôtées des mains de cette puissante nation qui s'appelle Gog, c'est-à-dire la Turquie, et qui a l'armée, la deuxième, dans l'OTAN, la deuxième armée la plus puissante. Avec notre complicité, évidemment. Belgique, Allemagne, France. Hein. C'est pas fait tout seul. J'abattrai ton arc de ta main gauche, je ferai tomber tes flèches de ta main droite. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, et toi et toutes tes troupes et les peuples qui seront avec toi. Aux oiseaux de proie et à tout ce qui a des ailes, aux bêtes des champs, je te donnerai pour pâture. Tu tomberas sur la face de la terre, car j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. J'enverrai le feu dans Magog, la Russie. La Russie. Parmi ceux qui habitent en sécurité des îles, ils sauront que je suis l'Éternel. Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple d'Israël. Je ne laisserai plus profaner mon saint nom. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint en Israël. Voici, ces choses viennent. Elles arrivent, dit le Seigneur l'Éternel. C'est le jour dont j'ai parlé. Alors les habitants des villes d'Israël sortiront, ils brûleront et livreront aux flammes les armes de tous les pays, de Gog et Magog qui sont abandonnés là, sur place, dans le nord d'Israël. Les petits et les grands boucliers, les arcs et les flèches, les piques et les lances, ils en feront du feu pendant 7 ans. Ils ne prendront point de bois dans les champs, ils n'en couperont point dans les forêts, car c'est avec les armes qu'ils feront du feu. Ils dépouilleront ceux qui les ont dépouillés, ils pilleront ceux qui les ont pillés. Dit le Seigneur éternel, en ce jour-là, je donnerai à Gog un lieu qui lui servira de sépulcre en Israël, la vallée des voyageurs à l'orient de la mer. Ce sépulcre fermera le passage aux voyageurs. Napoléon a été avec ses armées dans la vallée de Yisrael, la vallée des voyageurs qui va de Haïfa à la mer de Tibériade. Ça fait 35 km de long à peu près, 6 à 7 km de large. Et Napoléon a dit, oh, on peut mettre toutes les armées des nations ici. Il avait lu la Bible, hein, le phénomène. Ce sépulcre fermera le passage aux voyageurs. C'est là qu'on enterrera Gog et toute sa multitude. On appellera cette vallée la vallée de la multitude de Gog. Multitude, pourquoi? Parce que en plus de Gog, de la Turquie, il y a Magog, la Russie, et puis dans les textes, il faut le lire plus attentivement, il y a l'Iran aussi, les Mèdes et les Perses, l'Afghanistan. Les maisons d'Israël les enterrera afin de purifier le pays, cela durera 7 mois. Tout le peuple du pays les enterrera et il en aura du renom, le jour où je serai glorifié. Alors, un peu plus loin, je ne peux pas tout lire, c'est long. Et toi, prophète, verset 17, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, dis aux oiseaux, à tout ce qui a des ailes et à toutes les bêtes des champs, réunissez-vous, venez, rassemblez-vous toutes parts pour le sacrifice où j'immole pour vous des victimes. Grand sacrifice parmi les montagnes d'Israël. Vous mangerez de la chair, vous boirez du sang humain. Donc, il va y avoir des animaux en tout genre. Ben, quand j'ai été en Israël en 2008, il est clair, je dormais avec la fenêtre ouverte, mais il y avait 2,50 m. Autrement, je pense que je les aurais eus dans la chambre. Les chacals, ils sont nombreux. Hein. Ils sont nombreux. De là, ce qu'il y ait d'autres animaux, évidemment. Mais les chacals criaient toute la nuit. Là où j'étais, à Beth Shemesh, dans la vallée. Vous mangerez la chair des héros, vous boirez le sang des princes de la terre, bélier, agneau, bouc, taureau engraissé sur le basan, vous mangerez de la graisse jusqu'à vous en rassasier, vous boirez du sang jusqu'à vous enivrer. Ce fait sainte victime que j'immolerai pour vous. Il s'agit, bien sûr, des armées de 3 pays qui envahissent. Mais il faut savoir que dans Ézéchiel, dans Apocalypse, il y a même les armées des rois de l'Orient, donc la Chine. Peut-être le Pakistan, peut-être l'Inde. En tout cas la Chine, les rois de l'Orient. Et quand cela aura-t-il lieu? Quand l'Euphrate sera à sec. Eh bien, depuis 30 ans, l'Euphrate, un grand fleuve qui vient des montagnes du Kurdistan, manque d'eau. Et il est mis dans Jérémie 51, verset 36, que l'Euphrate sera sec à sa source. Donc il n'y aura plus de glace ni de neige sur le mont Arara, dans toutes les montagnes de Turquie. Il n'y aura plus d'eau dans le lac Van, un immense lac au pied du mont Arara. Il n'y aura plus d'eau dans les barrages de Turquie pour nourrir la Turquie. Il n'y aura plus d'eau dans l'Euphrate pour donner à boire en Syrie, en Irak. Et en même temps, il n'y aura plus d'eau dans le Nil en Égypte. La sanction de Dieu sera très lourde. Vous lisez Zacharie chapitre 14, vous verrez pourquoi. Que tous ceux qui n'adorent pas la venue de Jésus-Christ à Jérusalem, qui n'adorent pas l'Éternel qui doit revenir à Jérusalem, tous ces pays-là connaîtront l'absence de pluie, connaîtront la famine et la misère. C'est dans Zacharie, chapitre 14. Encore un prophète qui a parlé. Pour rien? Non. Regardez ce qu'on dit. Il y a un réchauffement climatique. Il y a des problèmes d'eau. Il y a des forêts qui brûlent. Mais c'est pas forcément réchauffement climatique. C'est la colère de Dieu qui arrive. Oh, mais vous me direz, il y a toujours eu des réchauffements climatiques, puis il y a eu des glaciations. Beau raisonnement, Mais qui est le maître d'œuvre de l'univers? Qui commande les glaciers? Qui commande les cours d'eau? Qui commande les pluies? Qui commande la rotation de la Terre? Certains me diront, c'est le hasard. Eh bien, il faut beaucoup de foi, plus que la mienne, pour croire que le hasard fait tout ça. C'est parce qu'on ne veut pas de Dieu et lui obéir et s'incliner devant les Saintes Écritures. On ne veut pas se reconnaître pécheur. Alors on appelle le hasard avec un grand H. Mais en fait, le hasard avec un grand H, c'est Dieu incognito. Oui, je peux le mépriser ou je peux croire en lui et le chercher. Alors je le cherche à travers Jésus-Christ et les Écritures. Mais si je veux croire au hasard, j'offense Dieu et la colère de Dieu sera sur moi. Romains chapitre 1. Les hommes connaissent la majesté, la divinité, la personnalité de Dieu à travers la création, à travers toutes les créatures. En regardant la créature, l'homme voit la majesté, la personnalité, la divinité de Dieu. Mais malheureusement, l'homme a adoré les créatures. Ben oui, il adore un chat, il adore un chien, il adore un cheval, il fait des statues, il adore une sainte, il adore aussi. Les hommes et les femmes sont des créatures aussi. On adore tel personnage, tel chef religieux, telle vedette de cinéma, tel chanteur. On adore les créatures, alors qu'il faut adorer le Créateur. Romains chapitre 1. Alors vous verrez qu'à la fin du chapitre 1, il est mis que la colère de Dieu est réservée pour ceux qui ont pris ce chemin-là. Lisez Romains chapitre 1, les amis. Je vous dis, chers amis, il est très lourd pour moi d'être 3 fois par semaine devant mon smartphone. C'est très lourd, en plus de tout le reste. Mais c'est parce que les temps sont courts, les choses sont urgentes. Soyez en ordre avec le Seigneur, lisez l'Évangile. Aimez Jésus, parlez-lui dans le fond de votre cœur, sincèrement. Je continue, Ézéchiel 39, verset 21. « Je manifesterai ma gloire parmi toutes les nations. Toutes les nations verront les jugements que j'exercerai. » Les châtiments dont ma main les frappera. Et c'est ce que je vous ai lu dans Matthieu et dans Luc. Hein. Je vais plus loin, parce que je ne peux pas tout lire, c'est trop long. Je serai sanctifié, verset 27, par eux aux yeux de beaucoup de nations. Je les ramènerai d'entre les peuples. Je les rassemblerai du pays de leurs ennemis, les Juifs, en Israël. Et c'est fait. Donc, vous voyez, la prophétie est déjà faite à moitié. Il faut qu'Israël se convertisse et sanctifie Dieu. Et croyez-vous que c'est impossible? Non, en 2008, j'ai vu dans un endroit caché, là où il y a le tombeau d'Étienne, 100 à 110 000 juifs, depuis 2003, vont chercher une Bible, ou des Bibles même, avec le Nouveau Testament dedans, avec le témoignage de Jésus et des apôtres. Donc, Israël, même si la radio, la télévision n'en parle pas, Israël se prépare à sanctifier Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Messie envoyé par Dieu, pour notre salut, et pour leur salut. Alors, au verset 29, « Je ne leur cacherai plus ma face. On verra Dieu. » Beau cadeau, n'est-ce pas? « Je répandrai mon esprit saint sur la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. » Alors, je vous rappelle que ce texte, vous pouvez aller lire Ésaïe chapitre 2, vous allez voir, il y a la même bénédiction, et Ésaïe 65, verset 17. Maintenant, je vous invite à aller dans le psaume 98. Psaume 98, 98. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut, il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Je vous ai dit que si les océans, la terre s'arrêtait une seconde, les océans continuent à passer au-dessus de nous pendant 2 siècles, 3 siècles. Il n'y a plus rien. L'Everest est raboté, il est au fond de l'eau. Un tour Eiffel, une boîte d'allumettes. Alors, il s'est souvenu de sa bonté, de sa fidélité envers la maison d'Israël. Tout passage en mer Rouge, n'est-ce pas? Libération de l'esclavage d'Égypte. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe, chantez des cantiques. Avec les trompettes au son du cor, poussez des cris de joie devant le roi. Je voudrais vous dire que dimanche, ce dimanche au matin, nous ne sommes pas nombreux, peut-être 15, il y avait une joie, une paix. Notre cher frère, Jackie, présidait. Il avait fait ça d'une manière formidable. Son cœur et sa voix parlaient. Et il y avait une symbiose, une synchronisation avec Vincent pour passer les textes sur l'ordinateur. Il y avait une symbiose, une harmonie d'entente avec nos filles pour chanter des chants, des nouveaux chants, des chants très mélodieux, modernes, des chants profonds, sincèrement profonds, bibliques. Pas des rengaines modernes, mais c'était beau. Nous étions dans une paix, une solennité, la solennité de la louange, de l'allégresse spirituelle, l'allégresse spirituelle dans le Saint-Esprit. Nous étions retapés, tous, quand nous avons fini le culte, retapés. Chers amis, Dieu sait ce qu'il doit faire si nous l'aimons du fond de notre cœur, si nous le louons, nous lui adressons des louanges. Mais si nous nous écoutons nous-mêmes et nous écoutons nos rengaines, nos amertumes, nos frustrations, nos agressivités, nous n'allons pas loin et Dieu n'a pas besoin de ça. Verset 5, psaume 98, 98, verset 5. Chantez à l'Éternel avec la harpe. Avec la harpe, chantez des cantiques. Avec les trompettes au son du cor, poussez des cris de joie devant le roi l'Éternel. Que la mer retentisse avec tout ce qu'il contient. Que le monde et ceux qui l'habitent éclatent dans l'allégresse. Dans la mer. Hier, il passait un très beau film sur tout ce qui se passe dans la mer. Ma femme était scotchée, comme on dit, par tout ce qu'elle a vu. De grandiose dans la mer. Je l'avais déjà vu, ce film. Et puis, bon, j'avais aimé étudier la mer lorsque j'avais fini mes études de biologie à l'école normale. J'avais fait ma thèse sur l'océan, sur la mer. Parce que je voyais la grandeur de Dieu à travers tout ce qu'il y a dans la mer, dans les océans. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse, que les fleuves battent des mains, que toutes les montagnes poussent de cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre, il jugera les mondes avec justice et les peuples avec équité. Donc, ceux qui seront sur terre et qui auront aimé Jésus, sa parole, et accomplir la volonté de Dieu, ceux-là verront ce monde retapé à neuf, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et ils ne verront plus un monde abîmé et détraqué. Et ils ne verront plus d'êtres humains détraqués non plus. Psaume 87. Je dis tout cela, Seigneur, devant le Seigneur, ne pensez pas que je penserai les autres qui sont détraqués, que c'est, je les regarde comme si, oui, je vois bien quand ils sont détraqués. Mais je me vois aussi les jours que je suis détraqué. J'admets vraiment que j'ai besoin de conversion tous les jours, de m'incliner devant mon Seigneur et de le renouveler, mon amour, mon engagement d'amour envers lui. Ma totale confiance. Comme un enfant. Comme me disait mon épouse il y a quelques jours, mais tout simplement ce que Dieu demande de nous, c'est qu'on soit comme un enfant qui aime son papa. C'est tout simple à comprendre, qu'elle me dit, Marie-Hélène. Et c'est tout simple, mais pourquoi il y en a si peu qui le comprennent? Parce qu'ils veulent être trop grands à leurs propres yeux, peut-être? Ben là, ils se trompent joliment. Psaume 87. Jérusalem est fondée sur les montagnes saintes. L'Éternel aime les portes de Jérusalem, plus que toutes les demeures de Jacob, toutes les villes et les villages d'Israël. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Je proclame l'Égypte, Babylone, parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr, avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés. Et de Sion, il a dit, tous y sont nés, c'est très haut qu'il a fermé. L'Éternel compte en inscrivant les peuples, c'est là qu'ils sont nés. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. Une fête glorieuse où les gens, les Philistins, c'est ce que, après, Titus, l'Empire romain, a appelé Palestiniens. Donc les Palestiniens, Tyr, c'est le Liban. L'Éthiopie, c'est le Soudan, c'est le nord, c'est le sud de l'Égypte, et c'est la Somalie, l'Érythrée. Alors, chers amis, Babylone, c'est l'Irak et la Syrie. Et Babylone s'étendait dans beaucoup d'autres contrées. Donc, l'Égypte, qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce Moyen-Orient, où ça ne fait que barder et se déchirer, eh bien, tout simplement, il y a une nouvelle naissance. Il y a une action de Dieu, un miracle, pour balayer le péché. Et pour inscrire dans les cœurs une nouvelle loi, l'amour, l'amour de Dieu, l'amour des autres. Une nouvelle loi, demander pardon à Dieu. Et une nouvelle loi, reconnaître que le sang Jésus à la croix a coulé pour tous les méchants que nous sommes. Une nouvelle loi qui a été donnée par Dieu. Croyez en Jésus mon Fils et recevez mon Saint-Esprit, vous serez alors de vrais adorateurs en esprit en vérité. Mais avec vos religions, je n'en veux pas de vos prières. Alors, je vais dans Jean, et je termine avec cela. Il y a quelqu'un qui me pousse à arrêter. Oui. Alors, vous savez que Jésus a demandé qu'on adore en esprit en vérité. Où est-ce que c'est? La Samaritaine, une femme qui avait eu 5-6 hommes. Donc, ben ça arrive souvent, il y a des hommes aussi qui ont eu 5-6 femmes. Hein. Sur la terre, c'est pas exceptionnel. Mais pour Dieu, c'est pas ce qu'il attend de nous. Hein. Jean, chapitre 4. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme, samaritaine, lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appellera Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes les choses de Dieu. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Voilà, un mercredi, chers amis. Je le suis, moi qui te parle. Lisez l'Évangile et dites-vous bien que Jésus est là et il vous dit, je le suis, moi qui te parle. Gloire à Dieu, soyez en paix, confiez-vous en lui. Sa paix ne se trouve pas dans les magasins ni à la télévision. Alléluia. Bonjour Françoise, bonjour Christophe.